Help! Pour qui voter?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Help pour qui voter. On vous rappelle le concept. Chaque semaine, un thème spécifique est approfondi avec les présidents de partis francophones.
Cette semaine, nous allons parler droits des femmes, des minorités et du terme polémique du moment, le wokisme. Nous avons demandé aux présidents de partis de nous donner des mesures concrètes présentes dans leur programme par rapport aux droits des femmes et des minorités, ainsi qu'un avis sur le terme wokisme.
On commence tout de suite avec François de Smet, président de Défi.
Dépénalisation réelle de l'IVG, telle qu'elle n'est pas pratiquée pour l'instant. Il y a toujours des centaines de femmes qui sont contraintes d'aller aux Pays-Bas pour subir un avortement tardif. Allongement du congé de parentalité, de maternité et de paternité, c'est-à-dire de faire en sorte que les pères et les mères, ou le parent 1, parent 2, comme vous voulez, aient les mêmes congés, parce que ça permet de lutter contre une discrimination réelle dont souffrent les femmes dès qu'elles sont en âge de procréer. Si les deux parents sont à égalité dans le risque, entre triple guillemets, de ne pas être présent plusieurs mois, c'est une discrimination qui saute. Bien sûr, faire en sorte, mais c'est en grande partie culturel tout de même, faire en sorte que les contraintes liées à l'employabilité des femmes sautent. Vous savez que dans la moyenne, les femmes sont plus mal payées, mais c'est parce qu'en général, elles acceptent plus facilement des temps partiels pour s'occuper de leurs enfants. Ça veut donc bien dire que c'est du côté des hommes qu'il faut, et des conjoints qu'il faut un effort particulier. Il y a énormément de familles monoparentales dans ce pays aussi. Et donc, nous pensons que les femmes célibataires, 80%, 90%, c'est quand même plutôt des femmes, n'ont pas la vie facile. Et donc, il y a toute une série de recommandations, de points de programme sur la facilité d'obtenir des rentes alimentaires, enfin, d'obtenir l'exécution de, des pensions alimentaires. Des pensions alimentaires par les ex-conjoints défaillants. Et il y a un aspect qu'on est, je crois, alors il y a tout l'aspect de lutte contre les violences faites aux femmes, avec l'ouverture de centres spécialisés pour l'accueil de femmes violentées de manière beaucoup plus forte, l'inscription du féminicide dans le code pénal, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a un volet donc qui est moins abordé par les autres parties, je crois, c'est les femmes entrepreneuses. On ne valorise pas assez l'esprit d'entreprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est encore plus le cas chez les femmes qui ont des tas de difficultés encore plus spécifiques, puisqu'elles ont trouvé davantage de temps que les hommes. Donc c'est encore plus dur d'entreprendre pour les femmes. Et pourtant, l'entrepreneuriat au féminin, lorsqu'il est valorisé, il fonctionne parce qu'elles apportent des compétences qui font du bien dans ce milieu, tout comme ça fait du bien en politique. C'est en général, c'est moins rentre-dedans, c'est plus empathique, c'est plus organisé, c'est plus visé sur l'efficacité organisationnelle et sur le bien-être de tous. Je sais que ça peut paraître cliché, mais c'est vrai. Et donc, l'entrepreneuriat féminin, et je crois l'avenir de l'entreprise et toutes les mesures qui peuvent valoriser les femmes là-dedans sont essentielles.
On entend parler beaucoup du mot wokisme. Qu'en pensez-vous ?
Je suis sceptique sur le mot. J'entends bien ce que certains entendent désigner, mais c'est un mot, c'est bizarre, inutilisé que par ceux qui veulent le démonter. Alors, il existe quelque chose que certains appellent wokisme et qui est en effet inquiétant, c'est l'idée que tout doit être renégocié, justifié, qu'il faut déboulonner tout le passé et que les gens doivent être traités différemment selon un statut de minorité et qu'il est donc normal de traiter différemment parce qu'il y aurait une forme de souffrance séculaire qui doit se transmettre. Des personnes qui ont une couleur, une croyance, de peau différente. C'est une importation américaine pur sucre qui, je trouve, ne colle pas bien à notre environnement européen. Moi, je crois très fortement à l'universalisme comme guide premier. Et donc, j'ai beaucoup de mal, je l'avoue, avec ce que le wokisme représente, même si je ne suis pas dupe du fait qu'une certaine droite conservatrice utilise le mot tout de même de manière un peu facile. Par contre, si on veut poursuivre le raisonnement jusqu'au bout, je peux entendre, pour avoir fait partie notamment de la commission parlementaire Congo, qu'il y a une série de gestes de reconnaissance du passé qui n'ont pas été posés et qui doivent l'être. Je pense au fait de présenter des excuses pour le pays, pour la colonisation au Congo. On doit aller plus loin que les regrets du roi qui ont été posés. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il ne faut peut-être pas déboulonner les statues, notamment la statue de Léopold II, à Trône, mais qui manque une plaque de contextualisation et qui manque peut-être un monument en face aux victimes de la colonisation ou de l'esclavage. comment faire en sorte de ne pas raser le passé, parce que ça, je crois que c'est très effrayant, mais d'y ajouter ce qui manque, en termes de reconnaissance et de reconnaissance symbolique. Moi, je ne crois pas qu'il faut interdire Tintin au Congo, mais il faut une préface qui explique le caractère de l'époque, parce qu'il est le reflet d'une époque où tout le monde était raciste, c'est pas juste l'œuvre qu'il était. C'est ça qu'il faut faire. Donc, brûler des livres, effacer des plaques, non. Ajouter ce qui manque pour mettre du contexte et faire qu'on fasse de la réappropriation symbolique et garder l'universel, oui.
Germain Mugemangango, du PTB.
Bah, il y a beaucoup de revendications dans notre programme par rapport à ça. Bah, d'abord, là aussi, évidemment, il y a véritablement urgence. Donc, l'année dernière, il y a eu 25 féminicides. C'est évidemment terrible comme situation. Cette année, il y a déjà eu un féminicide. On est en janvier, donc il y a déjà eu un féminicide. Donc la violence qui est perpétrée contre les femmes est un véritable fléau dans nos sociétés. On doit le reconnaître. Hein, bien souvent, on ferme parfois les yeux par rapport à ça. Maintenant, je pense que l'actualité, hélas, le démontre. Il y a un véritable problème par rapport à ça. Et donc, le premier élément qui est important, c'est qu'il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens pour protéger les femmes. Il faut des moyens pour pouvoir fournir des structures nécessaires pour permettre finalement, quand une femme doit pouvoir porter plainte, elle doit être entendue, et donc des moyens doivent être mis en place pour pouvoir encadrer effectivement ces femmes qui sont victimes de violences. Et on constate par exemple que dans des pays comme l'Espagne, donc l'Espagne est un pays qui est pour nous assez intéressant de ce point de vue-là, par citoyen en Espagne, il y a 16 euros qui est investi dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Si on fait la comparaison avec la Belgique, tout niveau de pouvoir confondu, on est à 5 euros par personne. Et donc ça, c'est un élément. Second élément, c'est qu'on voit bien qu'il y a des difficultés pour justement aller au-delà du sommet de l'iceberg. Parce qu'en fait, un des problèmes numéro un qu'il y a, c'est que dans 10 situations où des femmes sont victimes de violences, statistiquement, il n'y a qu'une seule situation qui va donner lieu à une plainte. Et donc, de ce point de vue-là, on doit faciliter par tous les moyens possible, justement, le fait de pouvoir s'adresser à un organisme qui puisse entendre et accompagner les femmes qui sont victimes de violences. Un des éléments qu'on a défendu, et qu'on veut mettre en place, c'est ce qu'on appelle des Punto Violeta, vu que c'est un modèle espagnol, à savoir, justement, des centres qui soient justement très nombreux dans les endroits, par exemple, de fête, dans les endroits où il y a des collectivités qui se rassemblent, dans les endroits où les universités, par exemple, donc, bref, dans les endroits susceptibles de donner lieu, hélas, à des phénomènes de harcèlement ou de violence faites aux femmes. Il faut que ces points-là soient nombreux, soient suffisamment équipés, parce qu'on sait bien que s'il faut faire des dizaines de kilomètres pour aller porter plainte, ou s'il faut porter plainte dans des endroits qui ne sont pas adaptés, où les personnes ne sont pas formées pour justement pouvoir recevoir ces plaintes, en fait, ces plaintes ne vont pas aboutir. Et alors, un autre élément qui est important aussi, c'est qu'on doit bien reconnaître que dans notre pays, malgré tout, il y a même une inégalité économique, en fait, entre les hommes et les femmes. Donc on parle régulièrement, on a bien raison, des différences salariales qu'il y a entre les hommes et les femmes, et aussi des différences de type de contrat. On constate quoi ? On constate que, justement, quand on parle de précarité, finalement, l'homme le plus pauvre de Belgique est une femme, parce que ce sont effectivement des femmes qui sont confrontées à des mi-temps, à des contrats précaires, à des situations de famille monoparentale, à l'isolement. Donc en fait, toutes des situations qui sont justement, qui accélèrent justement le fait de pouvoir se retrouver dans une situation de précarité.
Sur le wokisme.
Moi, je pense que le combat que toutes les minorités mènent pour simplement avoir des droits dans notre société, il est essentiel. Hein. Qu'on parle de minorités raciales, qu'on parle de femmes, qu'on parle de minorités en termes d'orientation sexuelle, je veux dire, toutes ces minorités ont réellement le droit de vivre dans notre société de manière égale. Et je pense que ce sont des combats qui sont totalement légitimes. Et donc, la classe ouvrière au sens large, les travailleurs, les travailleuses, les enseignants, les enseignantes, donc au sens large, ont toujours eu des victoires dans l'unité. Et ont toujours perdu quand ils étaient divisés. Et donc, de ce point de vue-là, on doit commencer par reconnaître les droits de toutes ces minorités pour justement, quelque part, les emmener dans un combat commun pour les éléments sur lesquels on a tous intérêt à ce que ça avance.
Georges-Louis Boucher, MR.
Alors, en fait, pour nous, ce qui est fondamental, c'est pas considérer les femmes comme une minorité ou un groupe à part. Et donc, moi, par exemple, en tant que président, j'ai supprimé les femmes MR, mais j'ai créé la parité dans tous nos groupes. Donc ça, c'est un élément majeur. Je pense que aujourd'hui, la question de la femme, elle se traduit en grande partie sur la question des familles monoparentales. Aujourd'hui, les femmes, en réalité, il y a pas tellement, pour une fonction égale, il n'y a pas de différence salariale réelle en Belgique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Ils ont fait un classement. On est un des pays les plus égalitaires. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays avec beaucoup de fonctionnaires. Et les fonctionnaires ont tous le même salaire pour les mêmes fonctions. Et on est un pays avec des salaires dits barémisés. C'est-à-dire qu'on négocie dans des secteurs spécifiques, on négocie des niveaux de salaire et ces salaires s'appliquent partout. D'ailleurs, vos auditeurs peuvent le comprendre facilement. Combien d'entre eux ont déjà négocié leur contrat de travail ? En général, le gars qui est au guichet d'une agence bancaire, il n'a pas négocié son contrat de travail. Donc, que ce soit un homme ou une femme, ils ont le même salaire. La personne qui est agent d'entretien en rue, bah, c'est le même salaire. Le policier, c'est le même salaire. Donc, en fait, on a plein d'emplois où les salaires sont déterminés préalablement. Par contre, ce qui crée une différence économique entre les hommes et les femmes, c'est surtout les familles monoparentales. C'est que les femmes sont beaucoup plus sujettes à se retrouver seules avec enfants. Et donc, ça a plusieurs impacts, dont l'impact majeur, c'est qu'elles ont moins de temps disponible. Et donc, comme elles font des 4/5, des 3/5, des mi-temps qui sont subis dans ce cas-là, eh bien, leur capacité économique est plus faible. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça ? Un, on doit avoir beaucoup plus de place en crèche avec de l'accessibilité en la matière. Il faut également qu'à l'école, il y ait beaucoup plus de possibilités sur la journée scolaire de pouvoir accueillir les enfants pour libérer du temps pour ces femmes. Donc ça, c'est un volet qui pour nous est important. Deuxième volet, je pense que la question de la sécurité est également importante. Alors, tout le monde a droit de vivre en sécurité, mais les femmes sont beaucoup plus vulnérables. Par exemple, sur certains types de délinquance, bah, la question du viol, être drogué à son insu, tout ce qui est harcèlement de rue, où là, on veut une tolérance zéro en la matière. Un homme ou une femme doivent pouvoir se déplacer partout, de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment. Et le troisième élément qui est important pour nous, c'est aussi le fait de pouvoir, dans les études, au niveau de l'enseignement, d'attirer beaucoup plus les femmes sur les métiers techniques, technologiques. Donc là, il faut beaucoup plus d'éducation, parfois des familles. Il faut une meilleure information. Mais aujourd'hui, force est de constater que les femmes sont beaucoup moins nombreuses à étudier dans les disciplines qui sont pourtant plus rémunératrices.
Sur le wokisme ?
Nous, on a fait du combat contre le wokisme un fer de lance en la matière. Le wokisme, en fait, c'est voir l'individu systématiquement comme une victime. En fait, c'est de voir une série d'individus. Alors, je vais prendre un exemple un peu effectivement caricatural pour bien me faire comprendre. Mais par exemple, c'est de considérer le fait que d'être de couleur noire fait de vous une victime. Mais aujourd'hui, qui a le plus de chances d'être discriminé ? Kevin qui habite à Colfontaine, qui est une des communes les plus pauvres du pays, ou Lewis Hamilton ? Pourtant, Lewis Hamilton est noir. Mais pourtant, il ne sera pas discriminé. Il va rentrer partout. Donc ça, c'est le premier élément. Vous ne pouvez pas être résumé à une caractéristique, et c'est ça le projet libéral. Le projet libéral prend l'individu dans sa globalité. Le problème du wokisme, c'est qu'on prend une caractéristique d'un individu, et sur la base de cette caractéristique, on en tire une conclusion. Un individu, en soi, n'est pas une victime. Donc, il faut surtout travailler sur l'égalité des chances. Il faut sanctionner les délits de discrimination, par exemple. Mais vous ne devez pas non plus vous dire « Ah, mais cette personne est une victime. » Donc, l'effet de conséquence de ça, c'est qu'il faut lui donner des droits particuliers. Et ça, c'est le troisième aspect. C'est que nous contestons toute logique de droits particuliers. Donc, dans le wokisme, on dit, ben voilà, si vous êtes, par exemple, c'était le cas dans le rapport de la commission Congo, ici au Parlement fédéral, si vous êtes un afro-descendant, alors vous devez avoir des droits de sécurité sociale particuliers. Vous devez avoir des quotas en matière d'emploi, des quotas en matière de logement. Nous, on est totalement opposés à ça. Donc, si vous avez une discrimination, il faut la sanctionner. Il faut faire en sorte que vous ayez les mêmes chances à l'école, à l'embauche, au logement. Mais vous ne devez pas avoir des droits particuliers parce que vous êtes un afro-descendant, par exemple.
Raja Mawan, écolo.
Alors, historiquement, écolo a été un parti le plus à la pointe sur les questions de droits des femmes et de défense des minorités. C'est un combat qu'on porte de longue date, puisque même la naissance du parti écolo, c'est un parti qui est jeune, hein, qui a 43 ans, et c'est un parti qui est né justement de la convergence de plusieurs courants, notamment le courant féministe. Et donc, pour nous, écolo, on est un parti à la pointe et on veut rester ce parti à la pointe. On a vu tout le travail qui a été mis en place par Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des chances et des genres, et qui a été poursuivie par Marie-Coline, et qui est poursuivie d'ailleurs par Marie-Coline Leroy, qui lui a succédé. Et donc, nous, on a toute une série de propositions, évidemment. Je pense à des propositions sur un peu qui sortent un peu de du champ des classiques, puisqu'on a été les premiers à avertir et à entamer un travail politique sur l'endométriose, par exemple. C'est une maladie qui touche environ une femme sur 10, qui entraîne de longues souffrances psychologiques, de longues souffrances physiques, parce qu'il y a une difficulté justement à diagnostiquer aussi cette maladie-là. Donc on est à la pointe sur toute une série de choses, mais peut-être un ou deux éléments qu'on a envie de mettre en avant, c'est une proposition un peu originale, c'est justement la gratuité dans la contraception masculine et féminine. On veut rendre justement cette contraception plus accessible en la rendant gratuite. Et puis, justement, pour ne pas mettre toute la charge financière de la contraception sur les épaules des femmes, parce que c'est souvent sur elles que ça tombe. Le nombre d'amis autour de moi qui prennent la pilule et qui sont seuls à assumer ce coût-là, c'est quelque chose voilà, sur lequel nous, on a envie de travailler et on a envie que la charge de la contraception soit partagée par les conjoints quand c'est un couple hétéro, en tout cas de rendre ça accessible à toutes les bourses. Un des éléments sur lesquels on a déjà travaillé mais qu'on a envie d'amplifier, sur lequel on a envie davantage de travailler, c'est la protection des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles et donc d'améliorer leur prise en charge. On a mis tout en place et ouvert toute une série de CPVS. Et donc ce sont des centres de prise en charge des violences sexuelles, on en veut un par province et donc on est en train de travailler là-dessus. C'est la poursuite du travail de Marie-Coline Leroy et de Sarah Schlitz.
Sur le wokisme,
je suis embêtée avec cette question en fait de wokisme, parce que qu'est-ce que ça veut dire le wokisme? Ça c'est une vraie question. Certains vous diront que c'est le recul des libertés, d'autres vous diront que en fait c'est tout l'inverse, et puis c'est un mot qui a été qui est utilisé par une certaine partie de la droite et de l'extrême droite pour disqualifier toutes les luttes contre les discriminations. Et donc, de dire en fait les femmes et les minorités de genre doivent avoir autant de droits que les hommes. On est d'accord là-dessus, ça fait pas de nous des dangereuses personnes. De dire que les personnes qui subissent des discriminations, en fait, elles ne doivent plus en subir parce qu'elles ont une orientation sexuelle différente, parce qu'elles sont d'origine juive, parce qu'elles sont d'origine immigrée, parce qu'elles sont je ne sais quoi. Ça ne fait pas de nous des personnes dangereuses pour le vivre ensemble. Au contraire, moi je pense que l'essence, la définition première du wokisme, c'est être éveillé. Ça vient de woke, wake up, ça veut dire être éveillé et sensible aux questions de discrimination et de vivre ensemble. Et donc, d'accord, on est tous alors woke. À partir de quand c'est devenu une insulte? C'est devenu une insulte quand certaines personnes de la droite ou de l'extrême droite ont commencé à utiliser ce terme-là pour disqualifier et pour décrédibiliser les personnes qui veulent lutter contre les discriminations. On fait des écologistes aussi, on a des clichés là-dessus, les écolos qui veulent détruire le vivre ensemble. Mais non, nous sommes le parti qui est le rempart contre les extrêmes, contre l'extrême droite. Nous sommes le parti qui, en fait, travaillons avec les écologistes du nord du pays parce que nous croyons en une Belgique unie, en une Belgique où le faire ensemble est extrêmement important.
Maxime Prévost, Les Engagés.
Bien entendu, vous trouverez dans le programme des Engagés toute une série de propositions en matière de protection des minorités, notamment LGBTQIA+. C'est aussi un élément clair sur lequel j'ai souhaité qu'on se distingue par rapport à l'ancien CDH, c'est que je pense qu'on doit en humanité justement être dans une démarche d'inclusion beaucoup plus volontaire, beaucoup moins discriminatoire que ce que nous connaissons à l'égard de toutes ces minorités qui méritent plein respect. Et il me tenait à cœur à titre personnel de le réaffirmer et de le coucher dans le béton du manifeste de mon nouveau mouvement politique. Et s'agissant des questions d'égalité des genres, d'égalité femmes-hommes, bien entendu que nous devons et nous restons très volontaristes en la matière. Vous savez, j'ai été le seul ministre homme en charge à un moment donné du droit des femmes en Belgique, ce qui m'a permis d'aller m'exprimer notamment sur cet enjeu majeur à l'ONU, de me rendre compte que la Belgique finalement, notamment sous l'impulsion de Joël Miliquet, avait fait énormément de choses en étant même le premier pays dans le monde à avoir voté une série de législations en matière de promotion et de protection du droit des femmes. On peut en être fier, mais il y a encore du taf. On est conscient qu'il y a encore beaucoup de travail en la matière. Moi, je suis très sensible aussi, et les engagés le sont, à l'égard des réalités des familles monoparentales. les mamans solo, les papas solo aussi, mais les mamans solo qui sont dans une galère dingue avec un salaire trop faible pour pouvoir assumer l'ensemble des enfants. Pourtant, ces enfants ont droit aussi aux mêmes chances en matière de parcours scolaire, en matière d'intégration professionnelle. Et le fait que la maman se retrouve seule, quel que soit le motif ou la raison, ne doit pas être un handicap supplémentaire, bien entendu. On est dans une démarche aussi très vigilante par rapport aux violences qui sont faites à l'égard des femmes, notamment les violences intraconjugales, intrafamiliales. Nous n'acceptons pas que quand il y a un mec qui bastonne sa femme, ce soit finalement elle et les enfants qui doivent quitter le domicile pour être hébergés en urgence quelque part, alors que finalement le bourreau reste lui tranquillement dans la maison familiale. Non, il faut inverser les rôles. À un moment donné, c'est quand même la famille qui subit les coups, en l'occurrence la femme, les enfants, qui doivent rester dans cet environnement qu'ils connaissent, qui vont être leur plus sécurisant parce que c'est leur référentiel de toujours. Et c'est le mec qui doit dégager et qui, le cas échéant, doit avoir obligatoirement un bracelet électronique avec respect par injonction judiciaire d'une distance à respecter, avec comme ça une détection qui se fait de manière automatique quand il y a une volonté d'enfreindre le périmètre de distance ou de protection. Ah, donc sur les questions liées aux violences intrafamiliales, sur les questions liées à la précarité, notamment des femmes, et des hommes aussi, ça arrive, qui vivent seuls, on a des propositions très fortes. Nous souhaitons d'ailleurs créer un statut particulier pour les mamans et les papas solo, parce qu'il y a aujourd'hui encore trop de situations, notamment en fiscalité ou en accès au logement, où cette particularité n'est pas prise en compte. On a, vous savez comme moi, un statut des familles nombreuses, où à partir de 3 enfants, vous avez droit à ceci, ceci, cela. Ben, dans la même logique, créons un statut des familles mono, parce que leurs réalités sont différentes aussi, et leur, quelque part, les privilèges, y compris tarifaires, dans certaines circonstances qui pourraient leur être octroyés, doivent aussi prendre en considération cette réalité.
Au sujet du wokisme,
je vais donner ma position personnelle, parce qu'on n'a pas vraiment eu de débat qui me permet en interne de dire ben, « voilà la position du parti ». Ce qui est en tout cas très clair, c'est que parfois je trouve qu'on va un peu trop loin. Je suis tout à fait conscient qu'il y a à un moment donné des choses qui doivent être revisitées, qui doivent être revues pour éviter la stigmatisation. Mais je pense que c'est plutôt les états d'esprit et les cerveaux qu'il faut parfois déboulonner plus que les statuts.
Paul Magnette, PS.
Oui, alors pour nous, les droits des femmes, c'est vraiment un combat essentiel. Quand on est socialiste, on est forcément féministe. Et j'ai organisé un grand congrès, d'ailleurs social féministe, pour identifier d'abord les lieux dans lesquels les femmes continuent à subir des discriminations et faire en sorte qu'on puisse les réduire. Il y a un premier combat qui reste pour nous absolument essentiel, c'est simplement l'égalité salariale. Ça fait des décennies qu'on en parle. C'est vrai que l'écart entre les salaires des hommes et des femmes s'est réduit, mais il reste beaucoup de cas dans lesquels, à travail égal, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Ça, pour moi, c'est totalement inacceptable et il faut vraiment responsabiliser les entreprises. Celles qui font ça doivent être sanctionnées parce qu'une femme doit évidemment être payée exactement comme un homme. Puis il y a toute une série de droits qui sont liés aussi au fait que les femmes, par simplement le fait qu'elles portent la maternité, peuvent être discriminées. Par exemple, si on ne donne pas un congé de maternité suffisant et si on ne crée pas un congé de paternité, eh bien on voit que les papas, dès la naissance, s'occupent un peu moins des enfants. Et puis les mauvaises habitudes sont très vite prises. Et au bout de quelques années, eh bien les tâches domestiques, ce sont principalement les femmes qui les portent. Souvent, c'est une heure et demie de plus tous les jours pour les femmes par rapport aux hommes, ce qui, évidemment, leur permettent moins de s'engager dans leur profession ou leur permettent moins simplement d'avoir du temps pour elles et pour leurs propres loisirs. Et donc, continuer d'augmenter le congé de parentalité et de le partager de manière juste entre les deux parents, quel que soit leur sexe, c'est quelque chose pour nous qui est absolument fondamental. On a encore plein d'idées, mais en voilà deux qui sont pour nous vraiment centrales.
Que pensez-vous du terme « wokisme » ?
Moi, le wokisme, ça me fait penser à Don Quichotte. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Don Quichotte, mais donc c'est ce combattant sur son cheval avec sa lance qui voit des monstres partout alors qu'en réalité ce sont des moulins à vent. Je trouve qu'on perd un temps fou avec ce type de débat. Quand on accuse de wokisme, ce sont que des gens de droite qui soit n'ont rien d'autre à faire de leur journée, soit essaie simplement de créer des écrans de fumée. Il y a des vraies questions qui se posent. Il est évident que les femmes aujourd'hui continuent de subir des discriminations. Il est évident que malheureusement, le racisme reste un phénomène très diffusé dans notre société, que les personnes qui, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur patronyme, en fonction de leur religion, continuent à subir des discriminations dans l'accès au logement, dans l'accès au travail. Il est évident aujourd'hui aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui ont envie de choisir leur vie affective, qui ont envie de choisir comment elles s'identifient dans leur rapport à la masculinité, à la féminité. Et c'est leur droit le plus strict. C'est une question, quand je discute avec des jeunes, je suis vraiment frappé de voir à quel point, dans la jeune génération, c'est une question qui est extrêmement importante. Donc laissons les gens en paix, laissons les gens libres de faire leur choix sur ces questions-là, et n'en faisons pas un grand débat autour du wokisme, qui, je pense, est souvent simplement une manière de faire oublier les vraies questions. Parce que pour nous, évidemment, les questions essentielles, ça reste les questions de justice sociale et les questions de lutte contre les inégalités et contre les discriminations.
Au niveau du droit des femmes, un grand point de convergence. La sécurité des femmes doit être améliorée. Les familles monoparentales sont également au centre des préoccupations des différents partis.
Par contre, au niveau de l'égalité salariale, la grille de lecture n'est pas la même, qu'on soit de droite ou de gauche. Au niveau du wokisme, les avis sont très partagés.
Le MR en fait clairement un combat, tandis que la gauche, PS, PTB, écolo, estime qu'il s'agit de chimères et que le droit des minorités doivent être défendus.
Au centre, on comprend les revendications, mais on estime que la forme va trop loin. Pas sûr qu'un jour il y ait un accord sur ce sujet.
On termine, comme d'habitude, par la question bonus. On leur a demandé de nous partager un moment gênant en politique. Bonne écoute et on se voit la semaine prochaine pour parler de santé.
Mais je suis pas souvent gênée, moi, tu sais, donc un moment gênant. Moi, je suis juste embêtée, je sais pas si c'est gênant, mais je suis juste embêtée quand je suis la seule femme autour de la table. Et je trouve ça nul, ça m'embête. C'est dommage, en fait, parce que ça me fait... Je le dis toujours, parce que c'est pas pour dire « Eh, en fait, je suis la seule femme », mais c'est pour dire « Mais pourquoi je suis la seule femme, en fait ?» Et c'est dommage, voilà.
Voilà. Je pense pas que je n'ai... Bah, je pense qu'au début, par exemple, qu'on était au Parlement, donc moi je suis parlementaire que depuis 2019, et donc parfois c'est compliqué de comprendre toutes les règles de ce Parlement, parce que nous on est parfois confrontés au fait que je trouve que ce règlement, que voilà, il fonctionne de telle manière à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de débats. Et donc parfois ça m'est évidemment arrivé, à moi comme à d'autres, d'intervenir au mauvais moment, de poser des questions au mauvais moment, parce qu'il y a toute une... un script finalement à respecter, mais je pense que c'était parfois des moments gênants pour moi, mais surtout je pense que les règlements devraient être évidemment faits plus en faveur de la démocratie des débats plutôt qu'en faveur d'un décorum ou d'un protocole qui est parfois beaucoup trop strict.
Oui, je me souviens d'une situation très gênante, enfin, de plusieurs, mais je voulais que je la raconte. C'était un ministre, c'était au gouvernement, je ne vais pas dire qui, une ministre avait dit « Oui, cette mesure, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne mesure. » Et un autre, et c'était une ministre qui était célibataire, et un autre ministre du même parti lui a dit « Mais ça ne te concerne pas, c'est pour les femmes mariées. » Et franchement, c'était une blague d'une telle misogynie épouvantable que tous autour de la table, on était extrêmement gênés.
Ouais, non, si. Ah, j'ai une anecdote pour vous. C'est en fait, j'arrive à une activité... voilà, c'est une activité pour chien, en fait. Et je vais pour rencontrer les organisateurs, etc. Et je me rends compte qu'en fait, les gens ne connaissaient pas exactement ma fonction. Et donc au début, ils ont cru que j'étais le bourgmestre de la ville. Je les entendais, mais c'était un peu compliqué de... Puis j'entends qu'ils disent « Ah mais non, mais il est ministre. »« Ah ouais, mais ministre de quoi ?»« Ben, ça, je sais pas. » »« Ouais, mais t'es sûr ?»« Mais si, il est ministre du gouvernement. Hein. » Et en fait, je suis resté là pendant 2 heures. Et c'est à la fin des 2 heures qu'il y en a quand même un qui a su que j'étais président du MR et qui a libéré le truc. Mais j'étais un peu embêté parce que d'un côté, je ne voulais pas leur dire « Non, mais vous n'y connaissez rien, donc je n'osais pas leur dire. » Puis d'un autre côté, je ne voulais pas qu'ils me mettent sous un autre nom. Quoi. Donc, c'était un peu gênant, mais ça va, on s'en est sorti. J'en ai beaucoup rigolé par après.
Quand je me suis aperçu que si je n'y allais pas, il n'y allait peut-être pas avoir de bons candidats pour la présidence de mon parti.
Waouh, ça j'en ai à l'appel. Le dernier en date, moi j'ai l'habitude souvent quand je croise les gens de dire ça va, bon pied, bon oeil, en forme. Et j'ai dit ça récemment à une personne par réflexe avant de me rendre compte qu'elle était aveugle. Donc effectivement, c'est un petit gros moment de solitude où on sent en dessous des aisselles une petite goutte qui glisse là de gêne. Mais bon, heureusement, il avait de l'humour.
N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne pas louper un nouvel épisode. Enfin, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez appris quelque chose. Merci beaucoup.
Help! Pour qui voter ?